une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis Dom Plante, avec moi, PH Quentin. Et cette semaine, c'est un grand plaisir et privilège de recevoir Francis Dupuis-Derry, qui est chercheur intellectuel, professeur à l'université, qui s'intéresse à l'UQAM, qui s'intéresse au mouvement antiféministe et masculiniste. Donc, l'idée du podcast, au départ, c'était de l'inviter pour parler de, justement, ces mouvements-là masculinistes tels que Andrew Tate et autres émules, comme il y en existe aussi au Québec, en fait, qui sont assez ridicules, merci, mais qui ont quand même une audience, un auditoire et qui disent des choses complètement capotées. Et bref, on a aussi discuté plus largement de la place de l'homme dans le mouvement féministe. Est-ce qu'on peut se considérer comme féministe ou seulement allié? Ou comment qu'on peut aider? C'est quoi la bonne façon sans vouloir détourner l'attention ou vouloir prendre le spotlight, tout ça? On a parlé de son dernier ouvrage, « Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés », qui fait un petit peu justement l'historique d'hommes dans l'histoire qui se sont proclamés comme féministes, certains pour des raisons douteuses et d'autres vraiment avec le désir d'aider. Finalement, une question quand même pas si facile à répondre que ça. Bref, on en discute avec Francis Dupuis-Derry. Alors, bonne écoute et bon podcast.
C'est parti. Merci beaucoup d'être là.
Ça fait plaisir. Merci de me recevoir.
Yeah. Merci de te déplacer dans la tempête.
Ça va. C'est ça le va, début toi? De la tempête. C'est le début de la tempête.
Ouais, c'est ça.
C'est la première de l'année.
Ouais, apparemment que c'est la première de l'année. Mais demain à Montréal, ça dit que ça va pleuvoir. Là.
Exact.
Si ça devient de la pluie, c'est moins pire, pas mal. Là. Moi, je prends l'avion demain matin pour l'Espagne.
C'est dur.
C'est dur. La vie est dure. Là. Quand je regarde dehors, j'ai pas envie de m'en aller.
J'imagine.
En ce moment, l'école a repris.
Encore. Oui, universités, les écoles, tout ça, ça a repris, oui, effectivement. Oui,
et comment ça se passe, la rentrée de session, en fait, juste pour faire un petit peu de mise en bouche avant de tomber dans le vif du sujet?
Oui. On a fini la session, en tout cas à l'Université du Québec à Montréal, là où moi je suis, à l'UQAM, on a fini avec, au niveau étudiant, il y avait des mobilisations, mm-hmm. Beaucoup pour la Palestine. Vous avez fait un épisode sur la guerre en cours, là, ou le massacre, ça dépend comment on le voit. Là. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de mobilisation à ce sujet. Cela dit, l'UQAM est très militant comme université, mais c'était moins crispé que McGill, par exemple, ou Concordia, où ça a été vraiment difficile. Parce que là aussi, il y a plus de personnes dans le corps professoral et dans le corps étudiant qui sont, je dirais, directement engagés ou impliqués dans le conflit. Il y a des personnes qui viennent d'Israël, il y a des personnes qui sont israéliennes, il y a plus de personnes juives aussi qu'à l'UQAM. Il y a aussi des personnes qui viennent de la Palestine, c'est un réseau plus anglophone. Nous, on a des étudiants là, du Maroc, Algérie, Tunisie qui sont francophones, mais la Palestine même, on en a moins, c'est pas qu'on en a pas du tout. Donc, c'était des mobilisations de solidarité.
Mm-hmm. Puis c'est pas sur le bord de terminer, j'ai l'impression.
Non, on dirait pas non.
Ouais. Mm-hmm. J'écoutais ce matin ton TED Talk sur le danger du courant woke à l'intérieur des universités.
Oui.
Tu parlais des universités engagées comme l'UQAM, par exemple.
Oui.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça avant de tomber dans tout ce qui est féminisme et masculinisme.
C'est lié.
C'est lié quand même, hein, parce que... nous, ici, on essaie de parler d'enjeux sociétaires, d'enjeux sociaux, mais souvent, depuis le début du podcast, moi, j'ai l'impression que je sais pas trop où me mettre.
Je vous explique ça.
Dans les, dans les différents...
On va avoir toutes les réponses.
Parce que nous, on est... Ben là, ici, on est trois hommes blancs hétéros, mais nous, on est deux animateurs d'un podcast. On est des hommes blancs hétéros. On veut essayer de... d'aider ou de participer,
faire notre part,
faire
mieux
notre
qu'on
part
peut,
du mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours simple.
Parce
qu'on sent que c'est peut-être pas notre place à prendre la parole, c'est peut-être pas à nous de faire ça, mais en même temps, on a une tribune qui nous est allouée. Donc, je sais pas par où commencer à cette question-là, mais comment on peut essayer de réconcilier cette idée-là de vouloir aider, puis de pas vouloir nuire ou de se placer en héros?
Oui, oui, ben il y a différentes manières, je pense. Tu as évoqué mon travail précédent il y a un an et demi, deux ans à peu près, qui était vraiment sur la panique anti-woke.
Ouais.
Donc moi, j'ai pris plusieurs mois à suivre ça. Je lis, entre autres, je lis le Journal de Montréal tous les jours.
Oui.
non, mais c'est important. C'est important. Ouais. Je lis le Devoir, le Journal de Montréal, puis je regarde un peu bon, Radio-Canada, mais pour me tenir au courant. Puis à partir de 2019-2020, à peu près, il y a vous savez, le Journal de Montréal, pour les personnes qui ne savent pas, là, mais le Journal de Montréal, le plan d'affaires de Pierre-Carl Péladeau après la grève de 2009 au Journal de Montréal, c'est qu'il a mis à pied beaucoup de journalistes. Il y a encore des journalistes au Journal de Montréal qui font du bon travail, d'ailleurs. Il y a le bureau d'enquête avec Antoine Robitaille et tout, mais... Ouais. Le modèle d'affaires, c'est vraiment un modèle un peu à la Fox News ou aux journaux tabloïdes, qu'on appelle en anglais, là, qui sont basés beaucoup sur les chroniqueurs, les polémistes. C'est ça, mm-hmm. qui fait vendre de la copie. Et puis, ils en ont des vraiment célèbres, pour de vrai, là, Richard Martineau, ouais. Joseph Facal, Sophie Durocher. Puis, comme vous le savez probablement, en plus, il a constitué sa plateforme web Cube, donc ils ont en plus des émissions de radio sur le web, donc c'est vraiment... Puis en plus, ils sont invités à la télé de LCN, donc c'est vraiment tout un
écosystème.
Un réseau, un écosystème, vous avez... C'est tout à fait légal, hein, mais vous avez ça dans tous les pays, c'est généralement des propriétaires qui sont des multimilliardaires, comme Pierre-Carl Péladeau est un des dix hommes les plus riches au Québec. Aux États-Unis, Fox News, c'est Murdoch. En France, c'est Vincent Bolloré. C'est tous des multimilliardaires. Et ça donne qu'ils sont plutôt à droite, disons, puis qu'ils jouent beaucoup sur les lignes là, des paniques au sujet de l'immigration, le déclin de la situation occidentale, etc. Bref. Et donc, en 2019-2020, il y a eu cette importation-là du mot « woke mm-hmm. » par les francophones, Mathieu Bock-Côté, Richard Martineau et tout. Puis moi, j'ai suivi ça de manière... je trouvais ça intéressant à voir aller parce que, comme quelques mois avant, il parlait de Social Justice Warriors.
Ouais.
Puis avant, il parlait de Political Correctness. Et je me disais, comment ça se fait qu'à comme tous les 2-3 ans, il change de
nom?
Il y a un nouveau mot qui t'explique pas trop pourquoi il change de mot. Ça désigne tout le temps les mêmes personnes. Et donc, ça désigne grosso modo... en même temps, les progressistes, mais aussi les féministes, les antiracistes, puis disons les minorités de genre et minorités sexuelles, pour le faire rapidement, là. Donc, les political correctness, c'était ça. Les social justice warriors, c'était les mêmes personnes. Puis les woke, c'est encore les mêmes personnes. Puis le mot woke, je pense, c'est celui qui est le plus efficace de la triade, là, pour faire des amalgames. Et donc, moi, Joseph Facal, Mathieu Bock-Côté, Sophie Durocher... Il y avait aussi Isabelle Haché à la presse, là, il y en a ailleurs, là, il y a Christian Rioux au Devoir. Il portait beaucoup d'attention aux universités. Donc moi, je suis prof d'université, je suis en sciences politiques, je suis à l'Université du Québec à Montréal, donc le bastion woke par excellence.
L'endroit,
exactement,
le château fort.
Il utilisait des mots vraiment très, très forts. Là. Il parlait de totalitarisme, de dictature, de tyrannie, de censure, puis il faisait des analogies avec dans leurs livres aussi qu'il faut lire. Il faisait des analogies avec la Chine maoïste, avec la Corée du Nord, avec les camps de rééducation, avec la période de la terreur pendant la Révolution française. Je me suis dit, avec les bolcheviques en 1917, je me suis dit, my God, y a-t-il quelque chose que j'ai pas vu à l'extérieur de mon bureau? Là, j'ouvrais la porte, je regardais dans les corridors, il n'y avait pas de mur de fusillé, il n'y avait pas de guillotine à la Garotte du Cam, il n'y avait pas d'échafaud avec des pendus.
Ouais.
Donc, c'est ça que j'ai fait dans un petit livre là, qui s'appelle « Panique à l'université », qui est sorti il y a 2 ans, je pense. « Panique à l'université », j'ai vraiment... J'ai pris ce qu'ils disent, j'ai comparé avec ce qui... Comme moi, je suis vieux maintenant, je suis fin cinquantaine, donc je me rappelle que dans les années 80, on nous a tenu le même discours exactement sur les universités américaines qui ont produit de la censure. Là, c'était la « political correctness », c'était les féministes et les antiracistes. On disait à l'époque qu'on ne pouvait plus lire les « dead white males », donc ça, c'est les ouvrages classiques comme Platon, Aristote, Machiavel, Hobbes, Rousseau, tout ça. Ça, c'était en 89, 10, 11, là, avec un livre célèbre d'un philosophe politique qui s'appelait Alan Bloom à l'Université de Chicago. Il disait la même chose, il disait « les féministes, c'est des Khmers rouges », donc en référence aux milices cambodgiennes qui ont tué plus d'1 million de personnes. Et donc à tous les 3, 4, 5, 6 ans, vous pouvez entendre exactement le même discours, il n'y a aucune perspective historique. En fait, on joue avec l'histoire parce qu'on méprise complètement la réalité historique en faisant ces analogies absurdes, qui est une insulte pour les millions de victimes de ces vrais crimes contre l'humanité. Mm-hmm. Et puis, en fait, ce qu'on décrit de l'université, c'est comme si c'était à feu et à sang, alors qu'en fait, on se base sur quelques anecdotes, Aux États-Unis, j'aime rappeler qu'il y a 1,3 million de professeurs. Là. 1,3 million, c'est du monde. Là. Mm-hmm. C'est comme si l'île de Montréal, c'était juste des profs d'université.
Mm-hmm. Ouais.
Ça serait vraiment plate. Mais, c'est impressionnant. Là. C'est,
il y aurait beaucoup de vestons. Là.
Et donc, c'est sûr que sur 1,5 million de professeurs d'université, il y a, je pense, 4500 établissements universitaires. Au fil d'une année, vous pouvez en avoir quelques-uns qui sont... En plus, il y a des universités privées, il y a des universités religieuses aux États-Unis. Il y a moins de protection syndicale. Ça fait que c'est vrai que vous pouvez avoir quelques professeurs qui sont mis à pied au fil de l'année. Mais quand on regarde attentivement, et là, je vais revenir avec la Palestine dans quelques instants, quand on regarde attentivement, en fait, c'est que les polémistes de Québécois, de Fox News, de Bolloré, en France, CNews, où il y a aussi Mathieu Bocoté, d'ailleurs, ils nous parlent seulement des quelques cas de professeurs qui sont mis à pied ou qui sont sanctionnés ou qui sont suspendus temporairement. Des fois, quand on fouille un peu, ils ne sont pas réellement mis à pied, d'ailleurs. Mm-hmm. Parce qu'on les a critiqués pour des propos misogynes ou pour du harcèlement sexuel ou pour des propos racistes. Et donc, là, ils font toute une théorie générale sur le fait que c'est la fin de la civilisation, la fin de l'université, la fin de la société et tout ça. Mais curieusement, ils ne parlent jamais, mais jamais, 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 jamais des quelques autres cas qui infirment totalement leur hypothèse et leur thèse, qui sont, en fait, les professeurs progressistes aux États-Unis qui sont mis à pied. Donc, il y en a qui ont été mis à pied, pas beaucoup, hein, c'est la même chose.
Le même pourcentage, à peu près?
C'est très, très peu, c'est quelques-uns. Il y en a qui ont été mis à pied parce qu'ils ont appuyé Black Lives Matter. Il y en a qui ont été mis à pied parce qu'ils ont dit qu'ils étaient sympathisants du mouvement antifasciste. Il y en a qui ont été mis à pied parce qu'ils ont dénoncé la manière dont leur université gérait mal les plaintes pour agression sexuelle. Il y en a qui ont été mis à pied dans des universités religieuses parce qu'ils ont révélé qu'ils étaient homosexuels ou trans. Et puis là, c'est très intéressant, dans les dernières semaines, on est en janvier 2024, dans les dernières semaines, là, il y a plein de cas documentés dans les grands médias d'universitaires qui sont pro-palestiniens, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, et qui sont sanctionnés. Il y en a qui ont été mis à pied, il y en a qui sont sous enquête par leurs universités. L'association étudiante de McGill est en conflit avec sa direction exactement sur cet enjeu-là parce qu'il voulait lancer une campagne de boycott. Il voulait participer à la campagne de boycott des investissements et sanctions contre Israël. Dans les plus grandes universités, Harvard, Columbia et d'autres, là, il y a des comités pro-palestiniens, y compris d'étudiants juifs, hein, des étudiants et étudiantes juifs, qui sont sanctionnés par leurs universités. Et là, c'est tout à fait intéressant parce qu'en fait, nos polémistes qui parlent des woke et qui ne parlent que des woke et qui utilisent des expressions comme totalitarisme, tyrannie, cancel culture, c'est curieux, ils n'écrivent pas une ligne sur ces cas-là. Donc moi, j'arrive à la conclusion, avec cet effet de comparaison, que en fait, ce qui les intéresse, c'est pas tant sauver la civilisation occidentale ou la liberté académique ou même la liberté d'expression. En fait, ce qui les intéresse réellement, c'est taper sur les féministes et taper sur les antiracistes.
Donc, vous, en tant que professeur d'université, surtout à l'UQAM en plus, et en sociologie en plus...
Sciences politiques. La science politique.
En plus, vous êtes un homme blanc hétérosexuel.
Apparemment, oui.
Vous ressentez pas qu'il y a une tension qui était pas là avant ou que vous devez plus faire attention à ce que vous avancez soit comme idée ou comme propos dans vos cours?
Ben, l'affaire avec ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est... moi, j'utilise la notion le concept de panique morale. La panique morale, c'est un concept qui a été développé par un sociologue anglais dans les années 60 qui s'appelait Stanley Cohen en Angleterre et qui portait spécifiquement sur la manière dont les médias montent en épingle ou couvrent de manière totalement... disproportionné, surtout sensationnaliste et épeurante, des micro-phénomènes. Donc, pour Stanley Cohen, au début des années 60, c'est pas très important, là, mais il y avait eu des bagarres sur les plages pendant l'été entre les rockers et les mods. Donc, ça nous rajeunit pas. Mais en tout cas, les rockers, c'était les rockers. Donc, ils se promenaient en moto avec des vestes de cuir et tout ça. Les mods, ils se promenaient plus en mobylette puis ils écoutaient plus du rock progressiste. Puis, ils buvaient pas la même type de bière puis tout ça. Puis, pour différentes raisons...
Les deux écoutaient du rock.
Les grandes différences idéologiques.
Mais il y avait assez de tension, ces groupes-là, pour que pendant quelques étés, sur les plages d'Angleterre, il y a des batailles de groupes. Là. Des fois, c'était 50 rockers contre 50 mods, puis là, ils pitchaient les peines de Guinness, puis les chaises longues et tout ça. Ouais. Ça avait vraiment créé une sorte de ce que Stanley Cohen a appelé une panique morale. Pourquoi morale? Parce qu'en fait, c'était la contre-culture, c'était des jeunes qui étaient un peu alternatifs, qui refusaient de se plier au moule, de respecter les valeurs de la société plus conservatrice anglaise, comme les féministes et les antiracistes aujourd'hui. Et donc, Stanley Cohen, il disait, les bagarres, elles ont vraiment eu lieu. Là. Il ne dit pas qu'il n'y a pas eu de bagarre, qu'il n'y a eu aucune bagarre. Il y a eu des bagarres. Mais il dit la couverture, y compris au niveau des photos, de la mise en page dans les journaux, des éditorialistes et la manière dont on parlait de ces jeunes. C'était des barbares, des sauvages, des bêtes, beasts, des bêtes. Ils mettaient à feu et à sang les villages. Ils menaçaient la société anglaise au grand complet. Faisait que ça a créé une sorte de panique. Et la panique, elle peut être réelle. C'est-à-dire que ça veut dire qu'après comme plusieurs semaines ou mois de couverture de ces batailles entre Rockers et Muds, on peut imaginer que des personnes, je veux dire des bourgeois âgés de Londres qui croisent deux rockers, ils peuvent avoir peur, ils pensent qu'ils vont leur sauter dessus avec des couteaux puis pour les massacrer. Et donc la panique morale qui a été créée autour des woke à l'université, ben ça a fait en sorte que les professeurs on a vraiment paniqué en fait. Et donc pendant des mois, c'était difficile d'avoir des discussions entre professeurs. Sans parler de ça, sans parler de est-ce que tu as des problèmes dans tes cours, est-ce que toi, tu es capable de parler de ça dans tes cours, est-ce que tu oses parler de ça dans tes cours? Donc, pour répondre à la question, oui, on s'est questionné à savoir. Et puis en plus, ces conflits-là, ils avaient lieu souvent dans les cours qui portaient sur des sujets comme le féminisme, exact. Le genre, le racisme. Ouais. C'était pas dans des cours d'introduction à l'administration publique ou aux relations internationales ou à l'économie politique, là, pour parler de sciences politiques. Là.
Ouais.
C'était dans les cours où, en fait, on était le plus en avance, je dirais, sur ces enjeux-là ou ces questions-là, qui attirent des étudiants et étudiantes qui sont allumés, qui sont intéressés, qui sont motivés, qui sont mobilisés, qui sont sensibilisés, qui veulent comprendre. Mais qui sont aussi des fortes têtes dans le bon sens du terme. Et donc, en fait, on se retrouvait comme sur la ligne de front, puis on a vraiment été craintifs. Mais au fil des mois et des années, on réalise qu'en fait, c'est rien passé de spécial. Qu'au fil des années, de toute façon, quand on est prof d'université ou c'est la même chose au cégep ou au secondaire, il arrive qu'il y a des problèmes avec des élèves. Là, ça fait partie du travail, de différents types de problèmes, d'ailleurs, à gérer. Et que c'est pas nécessairement beaucoup plus compliqué à gérer que d'autres problèmes. Puis qu'il y en a pas en réalité. Maintenant, on a une commission parlementaire sur la liberté académique instaurée par François Legault qui a abouti sur une loi sur la liberté académique l'été passé, 2023, après avoir fait un grand sondage auprès des 33 000 profs d'université. Et on arrive à la conclusion, avec même si on a fait une commission et on aboutit à une loi, il y a une loi maintenant là-dessus, alors que les universités avaient déjà des règles sur la liberté académique, on arrive à la conclusion qu'en 10 ans au Québec, il y a eu combien de profs mis à pied pour des enjeux polémiques de ce type sur les 33 000 profs?
J'ai envie de dire 2.
0.
C'était mon premier instinct, mais je me suis dit, je vais pas me faire avoir.
Et donc, je t'ai eu quand même. Et nous, contrairement aux États-Unis en plus, on a un fort réseau d'universités publiques, donc ce qu'on appelle le réseau UQ. Donc l'UQAM en fait partie, mais l'Université du Québec en Outaouais, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'Université du Québec à Chicoutimi, donc les UQ. Vous irez lire, ça vous intéresse pas du tout, vous ferez pas ça, je sais, mais vous irez lire nos conventions collectives qui sont comme accessibles en ligne, c'est passionnant.
Ouais.
Et il y a un article sur la liberté académique, notre liberté quand on enseigne et quand on fait de la recherche. Et moi, je pense que les profs d'université au Québec, on est probablement la profession qui a la plus grande liberté d'expression au travail. Même les journalistes de Radio-Canada, les membres de la fonction publique. Évidemment, si vous êtes employé d'une banque, si vous êtes employé au privé, vous ne pouvez pas sortir dehors et critiquer votre patron. Il peut y avoir des sanctions, vous pouvez être mis à pied. À l'université, on nous fait croire qu'on ne peut plus rien dire, alors qu'on est en fait la profession qui a la plus grande liberté d'expression. Et au niveau du travail.
Mais cette impression-là, c'est parce que, en fait, ce que vous nous démontrez, c'est que c'est réellement une impression, mais que finalement, qui a été amplifiée par la couverture médiatique, mais que dans les faits, il n'y a pas de réel problème. Mais ça va jusque dans la population. Là, j'arrive des parties de famille, du temps des fêtes. Pis,
oui, il ne faut pas faire ça.
Pas plus tard qu'il y a une semaine.
Tout le monde parlait de ça.
Mon cousin me disait, je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien. T'sais, la fameuse phrase, on ne peut plus rien dire, qui est rendue, nous autres, qu'on dit en blague quasiment parce que c'est rendu un cliché, mais il y a réellement des gens qui ont cette impression-là qu'il y a vraiment là, une police de ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut plus dire. Là.
Alors moi, ça, c'est... je suis content que tu rapportes cette expérience-là, parce que moi, ma compréhension de ce qui se passe dans les charges groupées, là, on dirait qu'on a un bataillon de cavalerie qui charge ou un chœur qui chante au diapason la même chanson. Quand on lit le Journal de Montréal ou quand on écoute Fox News ou qu'on écoute CNews en France et qu'on a ces... Et des fois, là, pendant une, deux, trois semaines, là, on va avoir 2, 3, 4, 7, 10, 12 chroniques exactement sur le même cas dans telle université aux États-Unis, au Minnesota, ou je ne sais pas trop quoi, d'apparemment un prof de musique qui a été suspendu. Là. Puis là, tout le monde se met là-dessus. Là. Ouais. Puis là, vous allez avoir un autre un mois et demi plus tard. Vous vous rappelez en 2016, les burkinis?
Ouais.
Le Journal de Montréal, j'avais checké là, au mois d'août. Ça, c'était une affaire qui venait de France. En plus, en France, il y avait deux municipalités qui avaient interdit le burkini, là, le costume de bain qui couvre le corps là,
ouais.
pour les femmes musulmanes plus orthodoxes, conservatrices. Il y avait eu deux municipalités, je pense, en France qui avaient interdit ça. Il y a eu, en 3-4 semaines dans le Journal de Montréal, à peu près une quinzaine de chroniques sur le burkini. Je pense 3 par Richard Martineau, 2 par Boccoté qui en faisait une dans le Figaro en France en même temps. Puis quand Denise Bombardier est revenue de vacances en septembre, elle en a fait 2. C'était totalement ridicule. Là. Il n'y a pas personne qui était capable de nous dire il y avait combien... Moi, je pense qu'il y avait plus de chroniques dans le Journal de Montréal sur le burkini qu'il y avait réellement de burkini au Québec.
Ouais.
oui, probablement.
Mais là, si vous lisez le Journal de Montréal, vous avez l'impression que...
C'est partout, là.
Remarquez, même s'il y en avait plein de burkinis, on s'en fout un peu, mais ça devient comme un problème. C'est ce qu'on appelle la mise à l'agenda de problèmes publics par les médias, une sorte de panique morale. Et donc, moi, je reviens à cette idée-là que ces journalistes, ces chroniqueurs-là, c'est pas des journalistes, ces chroniqueurs ou ces polémistes-là, ils utilisent des anecdotes sur l'université, mais moi, je pense qu'en réalité, ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe réellement à l'université. Ils ne s'intéressent pas à l'université, ils ne s'intéressent pas réellement à la liberté académique. Ils ne s'intéressent même pas au développement des connaissances, parce qu'en fait, le développement des études féministes ou des études sur le racisme ou des études sur le colonialisme ou des études autochtones, c'est en fait dans les développements les plus intéressants des 30-40 dernières années en sciences humaines et sociales. Moi, quand j'étudiais en sciences politiques dans les années 80, on avait un cours en politique du genre, je pense, politique femmes et politique. C'était tout. On n'avait pas de cours sur le racisme. On avait, en sciences politiques, dans les années 80, au Québec, dans aucun département de sciences politiques, il y avait un spécialiste de la politique autochtone. C'est quand même quelque chose. Et donc, en fait, ces développements-là au niveau de l'enseignement et de la recherche, c'est en fait un élargissement des connaissances et moi, je dirais comme une amélioration, en fait, de ce qu'on peut enseigner, ce sur quoi on peut faire de la recherche. Et en fait, c'est quelque chose de positif pour le développement des connaissances. Mais ces gens-là, ils ne s'intéressent pas réellement à ce qui se passe à l'université. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des polémiques. Et l'université, c'est facile à attaquer parce qu'en fait, les gens ne savent pas trop ce qui se passe à l'université en général. C'est quelque chose qui est un peu obscur, un peu bizarre. Et puis, moi, je pense que leur vrai objectif, c'est de créer des peurs, mais qui ont pour objectif de faire bouger les lignes politiques, pas à l'université, mais partout dans la société, y compris de forcer les partis politiques à se positionner. Ça a donné François Legault qui traitait Gabriel Nadeau-Dubois de woke à l'Assemblée nationale, vous vous rappelez de ça? Mm-hmm. Les partis politiques, donc ça permet d'attaquer Québec solidaire, par exemple. Ça permet de créer des tensions et des frictions, même dans les groupes communautaires, dans les syndicats, et vous as tout à fait raison, dans nos familles.
Dans les familles, oui.
Dans nos familles. Mm-hmm. Comme les familles deviennent... Il y a des familles, là, puis c'est correct, là, le Québec n'est pas la société où il y a le plus de fortes proportions de personnes qui vont à l'université. Donc, au Québec, il y a plusieurs familles où il y a à peu près personne qui va à l'université. On est d'accord?
Oui.
Puis là, ils se déchirent les chemises pendant les parties de Noël en disant que c'est la catastrophe, qu'on ne peut plus rien dire. Alors que dans leur réalité concrète, là, qu'est-ce qui a changé?
Non, c'est
ça. Pas grand-chose.
Pas grand chose à part.
Certaines expressions.
Ouais, c'est ça. À part certains moments où est-ce que là, justement, l'oncle puis la cousine qui étudie en sociologie sont au même endroit, au même moment.
C'est toujours des moments épiques.
Puis là, il y a un clash. Puis là, c'est. Puis effectivement, que finalement, dans le quotidien, ces personnes-là, ça change pas grand chose. Mais j'ai l'impression que peut-être que, justement, comme il y a eu beaucoup d'avancées dans les 30-40 dernières années, puis que peut-être que. La population, à moins de tenir à jour puis de suivre sur les, mettons, les réseaux sociaux des comptes militants ou de lire des essais, ben c'est facile de devenir dépassé de toutes ces nouvelles connaissances qu'on a là puis de sentir un décalage avec ça puis là avoir l'impression de plus être adéquat. Là.
Mais je vais rajouter deux choses en faisant du pouce sur ce que tu viens de dire, deux, trois choses. C'est qu'en plus, ce conflit, ces tensions-là ou ces discours paniquer qui arrive à la fin des années 2010, donc 2018-2010. Il y en avait avant, là, il y a comme une concentration de tirs de barrage là, à ce moment-là. Puis je vous encourage à aller voir, là, si ça vous intéresse, ça, c'est en ligne, c'est plus intéressant que la convention collective des profs. Là, c'est un numéro spécial de la revue Possible, donc Possible, vous cherchez Possible sur... sur Google, vous allez tomber dessus, les numéros sont en ligne. C'est, évidemment, je vais totalement rater mon point d'info parce que je ne me rappelle plus du titre, mais c'est sorti il y a un an et demi à peu près, et c'est sur, justement, c'est sur les woke, donc c'est, je pense on l'a intitulé « L'éveil », débat sur les woke et quelque chose comme ça. Et là-dedans, il y a un article de Raphaël Canet, un de ses étudiants du Cégep du Vieux-Montréal, Léo, qui ont travaillé spécifiquement sur l'arrivée du mot « woke » dans les médias québécois, et il montre que c'est à peu près 50% des occurrences du mot vient de à peu près 5 chroniqueurs du Journal de Montréal. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment impressionnant, là, vers 2019-2020. Ouais. Donc, ça arrive vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Où est-ce qu'on est au Québec et en Occident à ce moment-là? Bien, on est après 5, 6, 7 ans où il y a eu... là, si on recule même plus loin, il y a eu la grève de 2012, qui a été un mouvement absolument incroyable, la grève étudiante de 2012, qui est devenue un conflit social. Ouais. Mais après ça, il y a eu Black Lives Matter, 1 et 2 d'ailleurs, parce qu'il y a deux Black Lives Matter. On se rappelle de George Floyd, mais il y avait Michael Brown à Ferguson, je pense, de 2014 avant. Ouais. MeToo, on s'entend que moi aussi, il y a eu plusieurs vagues au Québec. Ouais. Agression non dénoncée. Il y a eu dit son nom, puis il y avait même un réseau féministe radical près de l'UQAM qui était Alerta Feminista, qui était un peu la même idée, mais pour des cercles plus restreints. Au niveau des Autochtones, il y a eu Idle No More. Après ça, il y a eu le blocage du chemin de fer, vous vous rappelez, juste avant la COVID, ce qui était vraiment impressionnant. Ouais. Puis en plus, il y a eu le mouvement de la jeunesse pour le climat, qui est une chose absolument hallucinante. Montréal était là où il y avait les manifestations les plus grosses, pas de l'histoire du Canada, les manifestations pour le climat, le mouvement de la jeunesse pour le climat les plus grosses de tout, du monde entier. Mm-hmm. Nos manifestations étaient plus grosses que celles de New York ou de Berlin, là, avec Greta Thunberg et tout ça. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Donc là, c'est sûr que si vous êtes plus sur une base de pensée conservatrice par rapport à la société... Vous sortez de cette destinée-là, là, je pense que vous êtes bien écœuré. Vous
n'avez entendu parler assez.
Là, je pense que vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a pas de place pour vous et que les mouvements progressistes sont beaucoup trop influents et trop forts. Parce que ces mobilisations-là, ils ont des impacts réels dans nos institutions. Mm-hmm. C'est normal, la vie, les choses sont reliées. Moi, je pense, par exemple, que la radio publique et la télé publique de Radio-Canada et Télé-Québec, ou Radio-Québec, je ne sais plus comment ça s'appelle, que maintenant, on voit au niveau de la représentation plus de personnes, des animatrices, des animateurs, des journalistes, des chroniqueurs, chroniqueuses qui sont de la communauté afro-canadienne ou qui sont de la communauté des communautés autochtones du Canada, ben, si on en voit plus au niveau francophone, au niveau anglophone, il y avait déjà plus avant, là, mais c'est entre autres lié à ces mobilisations-là que sur les campus universitaires, il y a aussi des manifestations, des protestations, même s'il n'y en a pas tous les jours, puis il y a plein de campus qui ne sont pas touchés, ben, c'est lié à ça. Puis donc, dans vos familles, si votre oncle, et on parle toujours de l'oncle, hein? c'est jamais nous, hein, d'ailleurs.
Non, moi, je suis un oncle quatre fois, mais je ne suis pas un oncle.
Non, exactement, on n'est pas des oncles. Mais si ce fameux oncle-là qu'il faudrait trouver un jour est perturbé, ben, j'ai envie de dire c'est normal. Parce qu'il s'est passé des affaires pour de vrai. Et y a des groupes dans la société qui disent ben, « ça ne peut plus continuer comme ça, là, ça suffit. » Le phénomène, moi aussi, c'est vraiment impressionnant. Là. C'est des milliers de femmes qui ont dit qu'ils avaient été harcelées ou agressées sexuellement. C'est quelque chose. Là. Elles sont autour de nous, ces femmes-là. Là. Elles n'habitent pas sur la station spatiale. Elles ont des amis, là. Puis elles ont des sœurs, puis elles ont des camarades de classe, puis il y en a qui les ont accompagnées au palais de justice, puis ils ont accompagné dans leur dénonciation. Là. Ça en fait des femmes, ça, dans nos vies, puis dans nos familles, puis dans nos réseaux. Là. Donc l'oncle, quand il pousse sa loque, puis il essaye de continuer à faire les mêmes blagues qu'il y a 30-40 ans, mais peut-être que ça passe peut-être un petit peu moins.
Ouais. Puis je vais à faire du ménage.
Mais il n'est pas une victime, lui, là-dedans, là. Il n'y a pas personne qui l'a agressé sexuellement ou qui a volé ses terres ou il ne se sent pas menacé par la police quand il roule dans sa voiture. On s'entend, là, on est d'accord, c'est de cet oncle-là qu'on parle.
Ouais. Tout à fait.
Il n'est pas une victime, puis il est même... il est souvent pas mal intentionné non plus, par exemple, tu sais, dans le sens que il est juste un produit de son environnement, là, tu sais, dans le sens que c'est de l'information qu'il a besoin de cette personne-là.
Un des avantages, c'est, je reviens à l'université, plusieurs professeurs, parce que là, on parle des professeurs qui ont paniqué, puis là, est-ce qu'on pouvait dire des choses, puis on s'est censuré dans nos classes. En fait, pour être tout à fait honnête, il y a plein de profs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés à la bibliothèque. Ils ont sorti des livres.
Ouais.
Ils ont dit, ben là, on se fait interpeller sur la question du racisme, puis le racisme systémique, puis c'est quoi ça, le racisme systémique, puis le racisme institutionnel, puis le racisme à l'université. On va à la bibliothèque, on va sur des sites de revues académiques, puis on s'est imprimé des textes, puis on est plein de collègues à avoir beaucoup lu et appris à ce moment-là, avoir pris le temps en disant, bon, ben là, il y a des crises sociales, il y a des conflits, peut-être qu'il faut s'informer. On n'a pas été formé là-dessus, on n'est pas spécialiste de ça, mais on peut lire. En ce moment, moi, je lis, je fais du rattrapage sur Palestine-Israël. On est interpellé par ça, ben on va essayer d'approfondir nos connaissances là-dessus. Puis évidemment, je comprends que les gens ne sont pas tous à l'université, ils n'ont pas nécessairement le temps, l'énergie de lire des livres, puis évidemment pas des articles académiques qui ne sont pas écrits, sont écrits dans des formats un peu rébarbatifs souvent. Mais en 2023-24, si on veut s'informer, là, on a rarement eu autant de moyens de s'informer. Mm-hmm. Là. Il y a des dizaines de podcasts, il y a des vidéos, il y a des formats de 2 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, 8 épisodes. Mm-hmm. Il y a des petits livres, il y a des formats bandes dessinées, il y a des petites bandes dessinées, des grandes bandes dessinées, il y a des petits livres, des grands livres, on est d'accord, là, on Google féminisme ou racisme ou autochtone Canada, là, on peut trouver des trucs tellement vite, tellement rapidement, de vulgarisation, super bien faite d'ailleurs, là, vulgarisation, c'est pas péjoratif, là. Dans les années 70-80, vous vouliez savoir c'était quoi le féminisme, ben vous alliez, moi j'ai travaillé en librairie dans les années 80, il y avait Simone de Beauvoir là, qui était quelque part là, sur un rayon, c'était à peu près ça qu'il y avait là. Maintenant vous rentrez dans à peu près n'importe quelle librairie, vous avez une section
féminisme.
Exactement. Puis c'est pas des ouvrages nécessairement super compliqués, académiques et tout ça là. Il y a plein d'essais, il y a des courts textes, etc. Il y a des bandes, je reviens avec le format bande dessinée. Il y a plein de moyens de s'informer, de s'éduquer si on veut. Là.
Mais oui, mais j'ai l'impression qu'il y a deux types de réactions possibles à des genres de mouvements comme ça. Parce que, tu sais, si on prend le MeToo, il y a plein d'hommes justement qui ont. Ça fait l'éducation sexuelle de bien du monde, ou des gens qui ont réfléchi à soit à leur propre pratique ou qui se sont informés. Même chose pour le mouvement Black Lives Matter, plein des personnes blanches qui ont pris connaissance, conscience du racisme, qui ont informé sur le sujet. Mais il y a aussi le revers de la médaille, peut-être, de la personne qui se sent prise en défaut, puis justement se sent attaquée. Donc, au lieu de s'informer, va se braquer, peut-être.
C'est certain, c'est sûr. Ben, ça fait partie des conflits. Ça fait partie des conflits sociaux. Quand il y a une tension, quand il y a une crispation, quand il y a un enjeu social. Moi, je me rappelle en 90, là, le siège d'Oka par l'armée canadienne. Avec l'appui des Mohawks de la rive sud là, qui avaient bloqué le pont Mercier, etc. Il y avait des personnes blanches d'origine européenne qui manifestaient leur appui aux Mohawks dans les rues de Montréal et ailleurs. Mais il y a des images célèbres là, à Châteauguay de la majorité blanche qui lance des roches sur des voitures qui de Mohawks qui évacuent là, avec des enfants et des personnes âgées. Là, ils lancent des roches, là, ils défoncent les vitres, là, sans parler de l'armée. Et puis, on avait plein de débats dans nos familles à ce moment-là. Là. Puis il y avait la thèse de « Ouais, mais là, les Autochtones, on disait les Amérindiens à l'époque, ou les Indiens, ils ont des exemptions fiscales, ils ne payent pas de taxes, ils ont tout gratuit, puis là, ils en veulent encore plus, puis là, ça n'a pas de bon sens, puis là, ça créait plein de débats et de conflits. » Mais pour en connaître plus sur les Mohawks qu'en 90... Aller à la bibliothèque chercher des livres, il n'y avait pas grand-chose. Puis on en parlait très, très peu à l'époque dans les journaux des réalités, des conditions autochtones. Ça s'est développé justement après, ça a créé un choc. Donc, c'est pas nouveau que quand il y a des conflits sociaux, il y a eu pas mal de chicanes de famille aussi pendant les référendums au Québec.
Ouais.
Il y a eu des chicanes de famille ou amis, ou il y a eu des chicanes en 2012 pendant la grève étudiante, on est d'accord?
Ouais.
Si vous étiez à Québec, quand il y a eu le Sommet des Amériques en 2001, il y avait de la chicane. Bref, c'est normal qu'il y ait la société ne peut pas toujours être À moins de vivre dans un paradis, là, c'est... ou Barbie Land. Là. Ouais. Même à Barbie Land, apparemment, il y a des...
Il y a des conflits.
Il y a des conflits, apparemment, à cause de Ken.
Ouais, exact, exact. Ouais. Une des figures qui est ressortie dans les dernières années comme étant peut-être la figure de proue du mouvement anti-woke, puis ça va peut-être nous amener à parler des mouvements masculinistes, c'est Jordan Peterson.
Oui,
avec
absolument.
Toute son histoire autour à l'Université de Toronto.
Mais justement, si tout à fait.
Oui. Pronom, hein.
Comment est-ce que cette histoire-là, qui était somme toute anecdotique, puis qui se voulait plus un... Corrige-moi si je me trompe, plus un combat autour de... du langage.
Oui, les noms, les prénoms choisis.
Les prénoms choisis, exact. Puis la liberté de langage, en fait.
Oui.
Comment cette histoire-là est devenue ce qu'elle est devenue? Puis ensuite, comment est-ce que Jordan Peterson est devenu cette espèce d'idole pour une frange de la population, soit les jeunes hommes, on pourra parler incel plus tard. Ou,
oui, oui.
Donc, comment est-ce que tu interprètes cette avenue-là, cet avènement-là?
Ben, je pense que je l'interprète dans la lignée de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on est... j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est autour de 2016 à peu près, peut-être un peu avant. Mais en tout cas, bref, il y avait la loi au niveau fédéral, un projet de loi canadien fédéral au sujet des personnes trans... qui leur permettait éventuellement de choisir un nouveau prénom. Mm-hmm. Et Jordan Peterson est un prof de psychologie à l'Université de Toronto, plutôt conservateur, pour le dire poliment, et qui, lui, avait déclaré qu'il refusait absolument d'utiliser dans ses salles de classe les prénoms choisis de ses étudiants et étudiantes et qu'il utiliserait le prénom qui est sur les listes officielles de l'université. Donc... à l'époque, à l'UQAM, on pouvait pas changer son prénom, par exemple. Moi, j'étais prof, j'avais la liste des noms mm-hmm. des personnes qui s'inscrivaient à ma classe sous leur prénom de naissance. Mm-hmm. Il n'y avait pas cette possibilité-là. Maintenant, c'est plus facile. Et donc, Jordan Peterson, non seulement avait refusé ça, mais avait commencé à dire même qu'il était prêt à aller en prison pour défendre sa liberté d'expression, sa liberté de conscience, alors qu'il n'y avait absolument nulle part dans la loi canadienne la possibilité de l'envoyer en prison.
Personne ne voulait le mettre en prison. Là.
Non, ben, même les juristes disaient, voyons...
Je veux y aller, ouais, non, mais c'est pas ça.
Non, on veut pas. Non, mais je veux y aller.
Exactement. Et donc, il a eu... donc ça, c'est l'espèce de coup de force qu'il a fait à ce moment-là. A eu un impact sur sa réputation, je dirais.
Mais il était des podcasts ensuite.
Mais il était déjà connu avant pour avoir fait des livres un peu guimauve là, de style coach de vie.
Développement personnel.
Oui, exactement. Développement personnel avec des trucs un peu bizarres. Genre, il y a comme les 12 leçons de la vie. La première leçon, c'est de se tenir droit. La deuxième, c'est de faire son ménage. Les troisièmes, bon, bref, mm-hmm. en tout cas. Mm-hmm. Puis pour une raison que j'ignore, c'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires.
Défense, beaucoup de gens qui disent que Jordan Peterson a changé leur vie.
Oui, oui, ben moi, ça ferait du bien que si je me tenais droit parce que j'ai des problèmes de dos, là, mais...
faire mon ménage et mon lit, première chose en me levant, c'est sûr que ça m'aiderait. Sûrement.
Exact. Donc, c'est comment être une bonne personne, mais c'est une logique un peu autodisciplinaire, là, très, assez conservatrice sur ce genre de réflexion-là. Mais ce qui n'était pas super politique, quoi qu'il y avait déjà à ce moment-là... le féminin, le masculin, le yin, le yang, le masculin, c'est la raison, c'est l'action, le féminin, c'est l'émotion, c'est la douceur. Bon, déjà un peu ces clichés qui sont pas juste que les sexes sont différents, mais qui n'ont pas la même valeur non plus. Hein. C'est hiérarchique, mm-hmm. ces qualificatifs-là, ils sont pas. C'est pas juste complémentaire, là. On en voit bien qu'ils ont plus de valeur que d'autres là-dedans, ou plus de force, justement, plus de puissance. Et donc, là,
il y avait déjà ça qui était sous-jacent
exact,
à son discours.
Tout à fait. Et puis là, il y a eu ce débat-là sur les prénoms. Les prénoms. Et puis, il a continué avec... il a embarqué, évidemment, dans la rhétorique anti-woke. Et finalement, il avait un podcast qui était... pas un podcast, en fait, des capsules vidéo qui étaient très, très, très populaires, où il donnait des conseils beaucoup aux jeunes hommes. Mm-hmm. Et puis, il a finalement annoncé dans le National Post qu'il démissionnait de l'Université de Toronto. En fait, il restait prof émérite. Mais dans une lettre ouverte où il attaquait très, très, très violemment ce qu'il appelait les woke, donc les féministes et les antiracistes. Et puis, il a fait un deal commercial avec Daily Wire, qui est une plateforme ultra-conservatrice, même d'extrême droite, en fait, aux États-Unis, animée par Ben Shapiro, qui mm-hmm. est un polémiste d'extrême droite aux États-Unis. Donc, ils ont fait un deal. Ils ont même fait des capsules annonçant ce deal. Jordan Peterson a même dit... Grâce à lui, je vais avoir plus de ressources financières, des ressources techniques, des ressources pour diffuser, mieux diffuser ma pensée. C'est tout à fait légal là, ce qu'il fait, il n'y a pas de complot là-dedans, c'est juste c'est une entente, il le dit. Et donc, tout ça, ça amplifie en fait la voix de Jordan Peterson. Et si vous le consultez, si vous allez voir un peu à quoi il ressemble, si vous ne le connaissez pas, Jordan Peterson, en fait, c'est un masculiniste, c'est-à-dire qu'il défend la thèse que les hommes aujourd'hui sont en crise parce que la féminisation de la société est trop forte, que les femmes prennent trop de place, que les féministes ont pris trop de place, qu'elles se plaignent pour rien, qu'elles victimisent les hommes. Et donc les hommes sont souffrants à cause de ça. Et donc lui, il est pour un retour de la masculinité fière et virile. Mais il est dans le modèle du sage, éduqué, conservateur, bourgeois. Donc, si vous regardez ses mises en scène, il est souvent en veston complet trois pièces, très chic. Mm-hmm. Il est souvent devant une bibliothèque. Les universitaires, on aime ça. Souvent dans un divan en cuir. Et il est très posé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, mais il parle de façon très calme, très. Il développe sa pensée, il prend le temps. C'est quelqu'un d'intelligent. Hein, c'est pas. Il y a pas de débat là-dessus. Alors que vous avez d'autres modèles comme Andrew Tate, qui lui est un modèle totalement différent. Donc lui, Andrew Tate, c'est le bad boy. Donc Jordan Peterson, c'est comme le père ou presque maintenant le grand-père conservateur, sage, patriarche. Et Andrew Tate, c'est le bad boy, boxeur, beaucoup d'argent, les gros muscles, les tattoos, le cigare, la voiture de luxe, le jet privé, le proxénétisme et la prison en Roumanie. Mm-hmm. Et les pizzas. Ouais.
Mais les pizzas.
Mais ça, c'est le phénomène Andrew Tate. Le phénomène Jordan Peterson...
Donc, c'est des influenceurs qui ont différents profils. Là.
Ben oui, c'est ça. Puis le phénomène Jordan Peterson, je peux dans un sens le comprendre parce qu'au travers, dans son antiféminisme, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus subtil que celui d'Andrew Tate.
Beaucoup plus subtil, bien sûr.
Puis il va quand même, son discours est quand même parsemé de trucs du gros bon sens, de trucs qui font, tu sais, qui font du sens ou qui peuvent même aider certaines personnes, tout en glissant au travers subtilement de l'antiféministe. Tandis que Andrew Tate, c'est tellement caricatural, grossier, puis que c'est fou de penser que quelqu'un peut adhérer à ce discours-là sans trouver ça ridicule.
Mais pourtant, il y a plein de jeunes hommes, dont des très jeunes hommes. Moi, je pense que même Andrew Tate doit séduire plus facilement des jeunes hommes que Jordan Peterson. Ah, je pense que Jordan Peterson, ça va être plus facile si vous avez 22, 24, 26, 28 ans. Andrew Tate, il y a des sondages qui sont sortis en Grande-Bretagne, entre autres, là. Dans les écoles secondaires, des jeunes garçons de 14, 15, 16 ans, ils suivent Andrew Tate. Andrew Tate, ils pensent qu'il va leur donner la clé du succès pour la richesse. Des jeunes garçons de 14, 15 ans, ils rêvent de grosses voitures. Et comme vous l'avez dit, le rapport aux femmes chez Jordan Peterson et Andrew Tate est différent. C'est pas la même chose. Jordan Peterson va dire, moi, je suis pour l'égalité des chances. Mais je ne suis pas un socialiste parce qu'il y a un discours anti-socialiste, anti-marxiste. Il dit, moi, je ne suis pas pour l'égalité des faits, je suis pour l'égalité des chances. Tout le monde doit avoir la même chance. Il dit, dans notre société, aujourd'hui, tout le monde a la même chance. Il dit même, il y a des quotas qui favorisent les femmes. Ça, c'est la thèse de Jordan Peterson. Et la thèse de Jordan Peterson, il dit, si les femmes gagnent moins d'argent, c'est parce qu'elles vont dans des métiers qui rapportent moins d'argent, c'est parce qu'elles font moins d'efforts dans leur emploi, elles se consacrent plus à leur vie privée, et donc elles montent moins dans la hiérarchie. Et donc, il y a une explication plutôt...
entre guillemets, rationnelle, si on
veut. Oui, rationnelle, mais aussi qui n'est pas de la misogynie pure, là, crasse. Comme... Alors que Andrew Tate, il y a des passages dans ses discours, il va dire qu'il faut traiter nos femmes comme... C'est des trophées sexuels. On les traite comme... C'est comme un chien. Il me doit obéissance. Il nous appartient. Et puis, il est accusé de trafic humain, oui, de proxénétisme. Donc, c'est pas le cas de Jordan Peterson. Donc, c'est deux voix antiféministes, mais qui sont vraiment sur des registres différents. C'est comme les féministes. Hein, les féministes, il y a différents registres de féministes.
C'est pas un bloc, c'est pas une pensée.
Non, il y a des féministes, on va dire, plus libérales, qui veulent... qui veulent travailler dans le cadre de l'institution. Il y a des féministes plus radicales, il y a des féministes et l'écologie, il y a des féministes qui croisent l'antiracisme. Il y a différents types d'antiféministes aussi, de féministes aussi, là.
Avec le message de Jordan Peterson que tu viens de faire la somme, en fait, là, comment est-ce qu'on le contre-argumente? Puis pourquoi est-ce que ça se place comme un message qui est anti-féministe?
En fait, le contre-argumenter, je sais pas, comme il est très bon avec la rhétorique, comme il est intelligent, mm-hmm. comme il joue avec des références pseudo-scientifiques. Il compare, je sais pas pourquoi lui a décidé qu'il avait choisi la comparaison avec les homards. Mélissa Blais, la sociologue féministe avec qui je travaille beaucoup, elle dit tout le temps, elle dit c'est drôle, elle dit quand on veut justifier le racisme ou le sexisme, on choisit toujours les animaux qui font notre affaire. comme référence, elle dit pourquoi on ne choisit pas les mantes religieuses, par exemple, comme modèle, ou les manchots empereurs, ou les bonobos, bref. Mais lui, c'est les homards. Donc, il a choisi les homards et il dit que ça explique les hiérarchies dans la société humaine. Donc, il est plus difficile à contrer en termes argumentatifs. Il y a des vidéos célèbres où il met en boîte là, des animatrices qui essaient de le...
On les a tous vus.
Qui essaient de le défier sur la question du féminisme, puis il répond tac, 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 tac. Il est vraiment très, très efficace, là. Andrew Tate est plus brut, évidemment,
ouais.
là.
Ouais. Mais justement, le...
Mais il n'y a pas de...
Pour l'égalité
de,
ouais. des... Tu sais, juste...
Mais il n'y a pas de... Juste pour terminer, il n'y a pas de... Le débat public, il se règle pas en donnant la réplique ou en répondant directement avec des adversaires qui sont quand le conflit est aussi quand le fossé est aussi grand, les répliques elles se donnent pas dans le face à face. Les répliques elles se donnent. Les féministes ont leur plateforme, ont mm-hmm. leur réseau, ont leur espace de diffusion. Les antiféministes ont le leur. C'est la même chose par rapport aux autres enjeux sociaux. Hein. Le problème, évidemment, avec ça, c'est que généralement, pas toujours, mais généralement, de manière tendancielle, les forces conservatrices et réactionnaires ont plus de moyens. Parce que, je dis souvent à la blague, mais c'est pas si drôle que ça, par rapport aux capitalistes, par exemple, ben, les anticapitalistes, un de leurs défauts, c'est que...
Ils n'ont pas d'argent.
Comme Diplume dans la chanson Les Pauvres. Ouais. Les problèmes avec les pauvres, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. et donc, les anticapitalistes n'ont pas d'argent. Mais de l'autre côté, il n'y a aucun mal à avoir de l'argent, et même énormément de l'argent. Et c'est pour ça que je reviens avec mes magnats de la presse, magnats des médias, qui est un phénomène tout à fait... légal, évidemment, et tout à fait constant dans les sociétés libérales depuis le 18e, 19e, 19e et 20e siècle surtout, c'est qu'il y a toujours eu des multimillionnaires, maintenant c'est des multimilliardaires, qui contrôlent des grands secteurs des médias et qui utilisent ça pour défendre leurs idées de droite. Là. Ça, c'est... Mm-hmm. Et donc, évidemment, les féministes peuvent avoir des porte-paroles qui ont des belles et des bonnes tribunes influentes, mais généralement, les forces conservatrices et réactionnaires ont généralement plus de puissance. Et une illusion qu'on a souvent quand on regarde les médias, c'est qu'on pense que ça s'équivaut. Donc moi j'ai été souvent aux États-Unis, j'ai longtemps pensé que Fox News et CNN c'était la même affaire. CNN c'était pour les démocrates, Fox News c'était pour les républicains. Je me disais, ça s'équivaut pas mal là. Puis à un moment donné, j'ai regardé les chiffres, là, les données au niveau de l'argent et surtout au niveau de la cote d'écoute. Fox News écrase complètement CNN, là, mais complètement. C'est des taux de cote d'écoute et de revenus et de capacités financières qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés que CNews. Vous avez le même phénomène en France, vous avez le même phénomène au Québec, au Canada. Là, c'est la puissance de l'argent allée du côté des forces conservatrices et réactionnaires quand même. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'au Canada, on est quand même relativement... chanceux par rapport à l'équilibre du débat public, d'avoir, par exemple, Radio-Canada, qui, mm-hmm. selon moi, a des voix quand même plus progressistes. D'ailleurs, ils font des blagues là-dessus. Ils disent « on est les woke de Radio-Canada », etc. Mm-hmm. Au niveau économique, c'est très, très, très soft. Il n'y a personne qui est anticapitaliste à Radio-Canada. Là. Mm-hmm. Mais mais sur les enjeux plus justement de féminisme, antiracisme et tout, ça crée un petit équilibre. Mais Radio-Canada est moins puissant que... Radio-Canada a de l'argent, ça. Radio-Canada a de l'argent, mais si vous prenez Québécois, c'est le groupe de, c'est le groupe médiatique qui est le plus puissant au Québec. Là.
Et le phénomène d'influenceurs comme Andrew Tate, est-ce que c'est... Tu sais, vous vous intéressez au... Excusez, je suis mêlé dans mes, dans
ouais,
mes pronoms.
C'est compliqué, ça. Appelez-moi R professeur.
Ouais, c'est ça. vous vous intéressez à l'antiféminisme depuis longtemps. Est-ce que des phénomènes comme, comme des Andrew Tate aujourd'hui, c'est quelque chose... C'est du jamais vu? Est-ce que c'est nouveau comme phénomène ou c'est dans une continuité de, d'un phénomène qui existait déjà?
Oui, c'est une bonne question. Il y a... mais en fait, il y a toujours eu des personnalités antiféministes plus ou moins célèbres, plus ou moins influentes. Mais là, évidemment, Andrew Tate, il joue beaucoup, et Jordan Peterson tire un grand avantage des médias sociaux, évidemment. Mm-hmm. Mais il y en avait avant, qui pouvaient avoir, par exemple, des chroniques dans les journaux, qui pouvaient être à la radio, qui pouvaient être éditorialistes dans des journaux et être reconnus pour être plutôt anti-féministes. Je reviens à Mélissa Blais, la sociologue Mélissa Blais, elle a fait une étude de la presse canadienne, je pense, c'est La Presse, Le Devoir, de Globe and Mail, La Presse, Le Devoir, de Globe and Mail, peut-être le Journal de Montréal, après l'attentat antiféministe à l'École Polytechnique en décembre 89, elle a fait un an de couverture médiatique, puis après ça, elle a refait un an 10 ans plus tard, puis un an 20 ans plus tard, et elle voit qu'il y avait des sortes de poteaux ou de pôles antiféministes, ou en tout cas pas très sensibles aux féministes, dans la presse à l'époque. Là. C'était pas, on n'a pas attendu les médias sociaux pour avoir ça. Il y avait des livres qui s'écrivaient aussi qui pouvaient être antiféministes. Rock Côté, qui était un journaliste, tout de suite après l'attentat à l'École Polytechnique, avait écrit « Manifeste d'un salaud ». Et puis, il contestait, il réagissait au discours féministe, à l'analyse féministe de l'attentat de Polytechnique. Il les démolissait, là. Vous en aviez d'autres qui étaient connus pour ça au Québec. En France, vous avez quelqu'un comme Éric Zemmour, qui a été candidat à la présidence à l'extrême droite, qui a été propulsé aussi par CNews, qui est une plateforme médiatique. Lui, un de ses premiers livres, c'est en 2006, donc ça fait longtemps. Ça s'appelait « Le premier sexe ». Ça avait été publié chez une maison d'édition tout à fait mainstream qui s'appelle « De Noël ». Et « Le premier sexe », c'était un manifeste antiféministe, en plus xénophobe et homophobe, super virulent. Donc, ce type de personnalités-là, elles existaient avant là, ce qu'on a maintenant. C'est sûr que les médias sociaux amplifient leur voix ou donnent une force de frappe plus grande à certains individus qui auraient plus de difficultés à percer, mm-hmm. probablement, là.
Puis comment qu'on explique...
Et puis, il y avait d'autres... l'antiféministe du début des années 2000 au Québec. Aux États-Unis, historiquement, l'antiféminisme, il est beaucoup associé aussi à la lutte contre le droit à l'avortement. Ils viennent d'avoir une victoire spectaculaire à la Cour suprême il y a deux ans, là. Mais ça, c'était les groupes religieux, c'était les groupes chrétiens, beaucoup. Chrétiens, catholiques, surtout. Mais à la fin des années 90, début des années 2000, vous aviez aussi des groupes de pères séparés et divorcés qui portaient un discours antiféministe assez important, même jusqu'en commission parlementaire. À Montréal, ils avaient escaladé le pont Jacques-Cartier, la Croix du Mont-Royal. C'était inspiré du groupe Father for Justice en Angleterre, qui avait même perturbé la Chambre des communes. En France, en 2013, c'est des groupes de pères séparés et divorcés qui avaient escaladé des grues, des structures urbaines aussi. Donc, il y avait aussi ces groupes-là qui étaient là. Là, depuis 2010, 12, 15... On a aussi les réseaux de ce que tu as mentionné tout à l'heure, involuntary celibates, les incels, qu'on pourrait traduire par chaste involontaire, ça serait plus précis comme traduction, qui regroupent des dizaines de milliers de jeunes hommes et qui sont liés à des attentats. Là. Il y a des personnes qui ont perpétré des attentats, ils ont tué des gens en disant on fait partie de la communauté incel, comme à Toronto, entre autres. Là. Mm-hmm. Donc, les choses... pour répondre à ta question, ou à votre question, votre ouais.
Tu...
Donc, l'antiféministe, il a été là, il est là depuis des centaines d'années, là, l'antiféministe, c'est pas quelque chose de nouveau, mais selon les périodes, selon les enjeux de l'heure, je veux dire, selon les pays, Il y a des sujets où il y a des personnalités, où il y a des groupes qui deviennent plus influents que d'autres. Mm-hmm. Comme au Québec, par exemple, ça fait 20-30 ans qu'il y a le groupe Campagne Québec Vie qui milite contre le droit à l'avortement. Au Québec, c'est très, 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 très peu influent. Là. C'est un groupuscule, là, réellement. Là. Ça mm-hmm. a très, très peu d'influence. Dans certains endroits aux États-Unis, le mouvement anti-choix, c'est le groupe antiféministe le plus important. Là.
Mais des influenceurs comme Andrew Tate en ont une, quand même, une influence. Puis il suffirait de parler à des professeurs au secondaire qui diraient qu'ils ont...
Ils le disent.
Là, que les jeunes gars dans leur classe, il y en a certains qui sont sous son emprise. Là,
les parents le disent aussi.
Puis comment qu'on explique qu'un discours aussi, aussi à droite puis aussi conservateur... dans une société comme le Québec, qui est une société progressiste, en tout cas bien plus que bien les endroits dans le monde, comment expliquer que ça fonctionne autant, ce discours-là, en fait?
Alors, il y a une hypothèse qui dit, ça a été dit par des psychologues, ça a été dit aussi par Mathieu Bocoté dans le Journal de Montréal, ça a été dit par des recherchistes qui voulaient m'avoir dans des médias pour parler de masculinité d'Andrew Tate. Ils me disaient... Oui, mais en fait, c'est probablement que les jeunes garçons sont tellement tannés qu'on critique la masculinité, qu'on dise que la masculinité est toxique, il y a eu MeToo, tout ça, qu'en fait, ils sont en perte de repère et là, ils se retournent vers Andrew Tate.
Mm-hmm. Je pensais pas qu'il y a un fondement à cette... Je vois où vous en allez, mais vous pensez pas qu'il y a un fondement à cette
hypothèse-là? Je vois surtout que tu me vouvoies, là, parce que là, c'est plus délicat.
Toi, c'est toujours ça. Hein. On tombe tout le temps de même. À chaque fois, c'est tutoie, moi, je tutoie, puis lui, il tombe au vous en 1,5 secondes.
C'est pas grave. Reçu une bonne éducation. En fait, je pense que dans cette manière de chercher une explication, il manque un élément important qui est en fait le début de l'histoire. Parce que là, on fait commencer l'histoire avec le féminisme. Donc, au commencement, il y avait le féminisme. Le féminisme a écœuré les jeunes garçons. Les jeunes garçons, ils ne savaient pas quoi faire. Ils se sont tournés vers Andrew Tate. oui, mais s'il n'y avait pas de violence sexuelle, de misogynie, de sexisme, avant, il n'y aurait pas de féminisme.
D'inégalité.
Il n'y aurait pas de féminisme. Il n'y aurait pas de mouvement antiraciste s'il n'y avait pas de racisme.
Ouais.
Ces mouvements-là, ils arrivent parce qu'il y a des problèmes avant. Et donc, en fait, les féministes, elles réagissent à des problèmes qui sont liés aux garçons, aux hommes, aux violences conjugales, aux inégalités, etc. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il y a tant de discours féministes à l'école. Ça reste à démontrer qu'on écœure les jeunes garçons avec ça. Ça reste à démontrer, selon moi.
Les jeunes garçons, ils ont Internet, puis, je veux dire, ils ont les réseaux sociaux.
Oui,
puis...
mais ils ne sont pas obligés d'écouter des féministes s'ils ne veulent pas les écouter. Ouais. Mais ces féministes-là qui critiquent, par exemple, MeToo, là, le mouvement MeToo, s'il n'y avait pas d'agression sexuelle, il n'y aurait pas de MeToo.
Ouais.
Et donc, en fait, ce que je ne comprends pas avec cette explication-là, c'est qu'on dit... Donc, ce qu'on dit, c'est que pour ne pas avoir Andrew Tate, il faudrait juste que les femmes disent rien. Ça ne marche pas, ça, comme explication. Et puis, deuxièmement, si les jeunes garçons étaient vraiment en perte de repère, ben quand ils se font critiquer par les féministes, ils seraient tellement en perte de repère que... commencerait à jouer au badminton, ou il collectionnerait des timbres, ou il ferait autre chose. Mais si leur bouée de sauvetage, c'est Andrew Tate, ça veut dire qu'ils sont pas pantoute en perte de repère. Ça veut dire qu'en fait, la masculinité super conventionnelle crasse aujourd'hui au Québec, elle est encore valorisée, puisque Andrew Tate marche. Si on avait vraiment déconstruit la masculinité conventionnelle, misogyne, sexiste, etc. Et si ces jeunes garçons-là étaient en perte de repère par la masculinité, ils n'iraient pas voir Andrew Tate. Andrew Tate leur aurait l'air d'une espèce de monstre venu de l'espace complètement absurde. Mm-hmm. C'est en fait parce qu'en fait, encore aujourd'hui, en 2024, on associe la masculinité aux grosses voitures de luxe, aux avions privés, à faire plein d'argent, à être un boxeur qui fume des cigares puis qui méprise les femmes, que ça, c'est un modèle qui, aujourd'hui encore, résonne qu'on pense à c'est quoi être un garçon qui réussit, ces garçons-là, c'est pas à cause des féministes qu'ils vont là, ils vont là parce que c'est ça qu'ils pensent que c'est la vraie masculinité.
Tu peux quand même te faire embarquer dans un genre de cycle, un genre de roue, tu sais, qui commence par une curiosité ou par ce discours-là, il me choque un peu, mais en même temps, je suis curieux à plus t'en écoutes, à finir par adhérer,
une
radicalisation qui se fait.
Oui, je peux pas faire une analyse de chaque jeune garçon qui embarque puis commence à trouver Andrew Tate intéressant, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'ai lu comme explication, c'était, ben, en fait, c'est de la faute des féministes si elles ont... Les féministes ont tellement embêté les garçons que les garçons se tournent vers Andrew Tate.
Mais moi, je dirais pas... Moi, je dirais pas que c'est la faute des féministes, mais tu sais, on parlait justement de l'implication par certains médias. Moi, je pense que même si, évidemment, l'égalité n'est pas atteinte au Québec entre les hommes et les femmes, par exemple, l'amplification des revendications féministes, mettons, oui. durant MeToo par les médias, le fait qu'on oui. en parle tellement, le fait que certaines personnes ont l'impression que cet enjeu est beaucoup plus... qu'on, je sais pas comment dire, qu'on en parle beaucoup plus que les gains réels qui sont faits dans la société ou que où est-ce qu'on est vraiment rendu. Donc, il y a comme une distorsion, finalement, entre le fait le fait que certaines personnes, je pense, ou justement des jeunes, ont tellement vu ça, ont tellement entendu parler de ces sujets-là, que même si, justement, les revendications sont pas, ou les causes n'est pas atteintes, ben là, ils ont l'impression que les féministes sont partout puis qui sont rendus supérieurs aux hommes.
Oui, mais fait qu'on revient à ton oncle.
Ouais, on revient à la question des médias qui amplifient, en fait.
Et à ton oncle face à une prise de parole des féministes, par exemple, après MeToo, ben lui, plutôt que de dire « Ah, ben je vais réfléchir à mes comportements face aux femmes et aux comportements de mes amis », peut-être qu'en fait, dans les 30 dernières années, il y a peut-être des affaires qui étaient peut-être moyens, en fait, dans ce que j'ai fait ou que j'ai vu faire, ben il va se braquer. Ben, moi, je pense que les jeunes garçons dont on parle qui s'en vont vers Andrew Tate, c'est la même chose. Exact. Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes garçons qui ont vu les discours féministes, ils ont vu des bandes dessinées féministes, ils ont vu des films féministes, ils ont parlé avec leurs amis féministes ou queer ou non-binaires, etc., puis qui sont super chill avec ça, puis qui sont super cool, puis qui trouvent ça, ben, que ça a bien de l'allure. Oui.
Puis qui trouvent qu'Andrew Tate a l'air débile mental.
Ben, c'est certain.
C'est la majorité, sûrement.
C'est certain. Et on avait vu, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des... Avant la pandémie de la COVID-19, il y avait eu le mouvement des carrés jaunes, qui était un mouvement contre les règles vestimentaires dans les collèges qui sont généralement sexistes. Moi, j'ai fait une enquête là, sur les grèves dans les écoles secondaires. C'est complètement un autre sujet, mais dans les entrevues que j'ai faites, il y avait... et les garçons et les filles me disaient, dans des écoles publiques, hein, y compris où il y a des uniformes et tout, ils disent... c'est parce qu'on a l'impression, des fois, que les adultes sont des obsédés sexuels. Là, comme au midi, là, quand les classes passent en rang dans le couloir, il y a des surveillants qui sortent des filles du rang. Encore aujourd'hui, là, il y a des surveillants avec des règles pour mesurer la longueur des jupes et des affaires comme ça. Là, c'est complètement flyé. Là. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2019, je pense qu'il y avait même eu des garçons qui avaient porté la jupe pour contester les règles vestimentaires. Ouais, ces garçons-là, c'était pas Andrew Tate leur modèle. Après ça, on peut basculer. On peut, d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, il y a des garçons qui, à 14, 15, 16 ans, ils pensent qu'Andrew Tate est cool, puis à un moment donné, ils vont rencontrer peut-être d'ailleurs leur première conjointe ou ils vont rencontrer d'autres personnes, puis finalement, ils vont en fait complètement...
Ça se peut qu'ils se le fassent dire quand ils rencontrent leur première conjointe.
Non, mais peut-être que ça va être une révélation pour eux aussi, qu'en fait, il faut les femmes, il faut les traiter essayer de les traiter comme nos égales, puis qu'Andrew Tate, en fait, c'est un modèle... les gens ne sont pas nécessairement condamnés à aller dans un axe ou dans l'autre, mais je reviens à cette idée que nos sociétés, elles sont traversées de conflits dans la mesure où nos sociétés ne sont pas égalitaires, tout le monde n'a pas la même liberté, tout le monde n'a pas les mêmes ressources, etc. Ça crée des conflits, et donc c'est normal, d'une certaine manière, là, qu'il y a que même au niveau des jeunes, il y a ces différences-là. Là. Mm-hmm. Mais c'est pas nouveau non plus. Là. On peut me faire croire que dans les années 60, par exemple... les jeunes garçons dans les écoles au Québec étaient super cool avec l'homosexualité, par exemple.
Probablement pas.
Et avec les filles aussi.
Puis même dans les années 2000 aussi.
Oui, oui, avec les filles, dans les cours de récréation. Moi, dans les années 70, moi, je suis vieux, donc dans les années 70, j'étais au primaire, au secondaire. Je dirais pas qu'il y avait des batailles entre les garçons et les filles dans les cours de récréation, mais c'était pas gagné d'avance que tout le monde fait jouer ensemble en mixité. Là. Il y avait des jeux qui se faisaient entre garçons, puis il y avait des jeux qui se faisaient entre filles, puis c'était pas. Puis t'avais avantage de pas être trop identifié avec la gang des filles si t'étais un garçon. Là.
Mm-hmm. Ouais.
Tu pouvais te faire tasser dans les cases, puis être stigmatisé et tout ça. Là.
Ouais, puis encore dans les années 2000, nous, t'es au secondaire dans les années 2000. Puis
il n'y avait pas de médias sociaux, là.
Non. Mais puis le sexisme ambiant, je suis pas dans les écoles secondaires aujourd'hui, je sais pas de quoi ça a l'air, mais j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui. Là, les remarques sur les femmes, puis les remarques sur les. C'était complètement une autre époque, là juste 20 ans. Là.
Ouais, tout à fait. Une dernière petite question, peut-être, pour revenir à la première question.
qu'est-ce qu'on fait pour essayer de nous participer du mieux qu'on peut à aider la cause féministe?
Oui.
Parce que je sais que c'est un débat aussi autour des hommes blancs qui prennent, évidemment, certains qui se disent féministes. Je sais que ça, c'est ça mal vieilli, un homme qui se dit féministe. Fait que, c'est quoi la méthode, puis aussi le vocabulaire autour de...
Oui.
De comment user de notre plateforme, mettons.
Oui. Bon, ça, c'est... Moi, j'ai pas la réputation d'être très optimiste dans la vie, donc je veux pas être candide et débordant d'optimisme par rapport à ce qu'on peut faire de positif, mais... Okay. Je vais faire pour
mon... La prémisse est médite, j'attends la suite.
Exact, donc pour faire plaisir à mes éditrices des éditions Ruminage, je vais quand même faire la promo du petit livre là, qui vient de sortir, qui s'appelle les hommes et le féminisme. Et le sous-titre est important parce que c'est poseur, faux amis et alliés. Donc en fait, ce que j'ai fait dans ce livre-là, c'est j'ai justement essayé de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que les hommes qui se considèrent plutôt solidaires par rapport au féminisme ou pour l'égalité entre les sexes, disons ça comme ça, peuvent faire? Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par aller voir les féministes elles-mêmes. Et donc, les féministes elles-mêmes, 19e, 20e siècle, 21e siècle, elles voient qu'il y a des hommes qui sont dans leur mouvement de certaines manières, de différentes manières. Et il y en a qui sont très enthousiastes, il y en a qui sont très optimistes, il y en a qui sont très contentes, il y en a qui disent qu'il faut qu'il y ait le plus d'hommes possible dans notre mouvement. Là, on n'est pas dans la vie intime, relation de couple hétérosexuelle, par exemple, mais quoique même ça aussi, il y en a qui disent, si on est des femmes hétérosexuelles puis qu'on est féministe, on espère qu'il y a quand même des hommes pro-féministes parce que notre vie amoureuse et sexuelle va être un peu plate et pénible et solitaire, finalement. Mais j'ai aussi consulté des féministes qui sont plus méfiantes, qui ont tendance à constatent qu'il y a des hommes qui sont là, qui essaient de faire des choses, qui sont des fois qui sont souvent bien intentionnés, qui veulent être bienveillants, qui veulent être efficaces, mais elles voient qu'il y a un certain nombre de problèmes qui découlent de leur engagement. Je reviens à Mélissa Blais, la sociologue dont je parlais tout à l'heure, Judith Taylor, une sociologue à l'Université de Toronto, Wei Zhenchen, une anarchiste chinoise féministe du début du 20e siècle, qui constatait qu'il y avait des hommes en Chine qui se disaient pour l'égalité entre les sexes, mais ils voyaient un certain nombre de problèmes. D'autres aussi. Et puis aussi des réflexions du côté des hommes, parce que j'ai essayé d'élargir pour aller voir les hommes pro-féministes dans l'histoire, du côté des Afro-Américains, l'ancien esclave Frédéric Douglas, entre autres, et d'autres, mais aussi plus récent, le Black Men... comment il s'appelle, le groupe? Black Men Against Sexism, je pense. Dans des pays en Afrique, en Afghanistan, il y a des hommes pro-féministes. En Asie, etc. Donc, bref. Au Pakistan et tout ça. Donc, des hommes pro-féministes, il y en a un peu partout. Ils sont sur différents fronts, en Inde, sur les questions de violence sexuelle, mutilation génitale, l'accès à l'éducation, etc., etc. Donc, il y a plusieurs fronts de lutte où les hommes sont. Mais les féministes qui sont un peu craintives vont dire, en fait, il y a des choses importantes à garder en tête. Ça, c'est le cas de féministes en Afghanistan qui disent ça, mais ailleurs aussi. Elles disent, il faut qu'on garde notre autonomie. Il ne faut pas que les hommes parlent à notre place. Il ne faut pas non plus qu'ils prennent le contrôle de nos organisations. Organisation, c'est au sens large. Ça peut être un média, ça peut être, ça peut être un groupe communautaire, ça peut être un groupe militant. Ce qui est bien, c'est d'avoir des hommes qui... Et là, il y a des types, des profils. Il y a les hommes qui sont auxiliaires. Donc, les auxiliaires, ils vont être... ça, historiquement, il y en a eu souvent des hommes, par exemple, qui vont en fait aider simplement en donnant de l'argent à des causes pour les femmes, à des causes pour les féministes, pour les femmes, situation d'itinérance, ou les femmes, whatever. Au niveau militant, j'ai connu des groupes d'hommes qui étaient... qui disaient qu'ils étaient un groupe militant, mais c'était pas un groupe de parole. Ils parlaient pas de la masculinité, ils parlaient pas de leur père, ils parlaient pas de leur sexualité, ils savaient pas de déconstruire ceci ou cela. Ils étaient simplement en attente de groupes féministes qui pouvaient leur demander de l'aide logistique pour organiser des événements, du transport, organiser une salle, faire du ménage, s'occuper des enfants pendant que les femmes faisaient de la politique, etc., etc. Donc, une position plus d'auxiliaire. Il y a évidemment l'idée que, là, évidemment, c'est un contre-exemple absolu, mais que sur ces enjeux-là, essayer de ne pas avoir au micro seulement des hommes. Donc, c'est un échec retentissant, notre expérience. Quand même, félicitations.
Ouais. Mais vous devez être...
vas-y.
Vous devez être confronté quand même à ça. Je veux dire,
Dupuis des riches, j'ai deux noms de famille, donc c'est vous.
Ouais, c'est ça.
Vous avez dit tu, vous.
Non, dans le sens que le féminisme est une de vos causes principales, puis une des choses dont vous parlez le plus souvent. Vous êtes confronté à ça, ce genre de paradoxe-là entre le fait d'être un homme, de vouloir laisser la place, mais en même temps vouloir en parler parce que c'est un enjeu important.
Oui.
Comment vous gérez ça dans votre vie, en fait?
Donc, c'est ça. Donc là, il y a différentes manières. Donc, dans mon livre, à la fin du livre, j'ai ce que j'appelle un petit guide de disempowerment, là, qui est un peu un manuel pratique, là, où j'essaie de montrer aussi que, pour être vraiment dans le pessimisme absolu, qu'à chaque chose qu'on essaye, il peut avoir des choses, des effets négatifs, pour certaines féministes en tout cas. Mais ce que j'essaie de faire, moi, c'est... Donc, ça, c'est raté pour aujourd'hui, mais j'essaie quand même de m'assurer que la parole circule et que c'est pas moi qui parle. Moi, je suis aussi sur des créneaux... tu disais que je travaillais beaucoup sur le féminisme, mais en réalité, c'est une illusion parce qu'en fait, mon créneau, c'est l'antiféminisme. Donc, moi, je travaille sur l'antiféminisme. Mm-hmm. Je travaille sur l'antiféminisme avec des féministes. Mélissa Blais, en France, il y a une historienne qui s'appelle Christine Barre. À l'Université Laval, à Québec, il y avait Diane Amoureux. À l'Université du Québec, à l'UQAM, en communication, il y a Mélanie Millette qui travaille sur l'antiféminisme. Il y a des étudiantes aussi qui travaillent sur l'antiféminisme. Donc, je suis en collaboration régulière, même dans des groupes, dans des activités, dans des publications, dans des colloques, dans des activités avec des féministes. Donc, je suis, en fait, en réalité, très minoritaire, je peux dire ça comme ça. Généralement, quand j'ai des invitations, je consulte aussi pour voir si une ou l'autre veut soit venir avec moi, soit y aller toute seule. Donc, on peut passer la POC aussi. Donc, ça, c'est des puis, c'est ça. Donc, moi, je travaille vraiment sur des créneaux très précis. Donc, c'est très rare. C'est très rare. Ça peut m'arriver comme ça dans des discussions, mais je ne vais pas accepter... j'ai déjà eu des invitations que j'ai toutes refusées sur c'est quoi l'avenir du féminisme, c'est quoi les jeunes féministes, c'est quoi, qu'est-ce que devraient être les objectifs du féminisme. C'est pas à moi de dire ça. J'en sais rien en plus. Et là, ben, je parle des hommes pro-féministes. Donc, c'est un sujet aussi qui est un créneau très précis, là. Ouais. Je sais qu'il y a des hommes comme au niveau universitaire, un peu dans ma posture, comme à l'Université d'Ottawa, Simon Lapierre, qui est en travail social. Lui, il consacre son énergie, sa recherche aux violences interfamiliales contre les femmes, donc les violences masculines dans les familles. Donc là aussi, moi, je considère que Simon, il fait évidemment œuvre utile. Mais c'est ça. Mais donc, les féministes peuvent dire ben, vous êtes bien sympathique, mais vous prenez quand même la place. Vous gagnez du capital, du crédit, du prestige grâce à ça, alors qu'il y a d'autres femmes qui en ont moins. Évidemment, on peut dire des faussetés, on peut dire des bêtises. Mm-hmm. On donne l'impression qu'on est meilleur qu'on est probablement en réalité, y compris dans notre vie privée. Moi, je considère pas que dans mon couple, par exemple, c'est l'égalité est parfaite et que je suis parfait, pas du tout. Mm-hmm. Comme je disais avec un ami, c'est que les hommes, c'est comme les hommes par rapport à des choses simples, qui ont l'air simples, hein, comme les tâches domestiques, les tâches... Bon, moi, j'ai pas d'enfant, mais pour être les tâches parentales, mais les tâches domestiques, le ménage, tout ça, on sait que c'est à la base des inégalités dans les couples hétérosexuels, là. Et puis, même si ça a l'air si simple que ça, on a souvent une sorte d'excuse d'être socialisé, puis on oublie des choses, on laisse passer le temps, et puis, curieusement, les choses se font toutes seules. puis il y a même des choses dans l'appartement après 2, 3, 4 ans qu'en fait, on réalise qu'il y a des choses qui se sont faites qu'on ne savait même pas que ça existait. Mm-hmm. Donc, c'est pratique. Et,
ça, c'est la magie, c'est ça.
C'est, hein? C'est la petite fée. Oui, ma copine dit que c'est la petite fée qui a changé telle chose. Ouais. Parce que toi, tu ne l'as jamais fait. Ça fait comme 15 ans que tu habites là. Tu n'as jamais, comme tu es toujours à côté, tu lis ça, ouais. Mais tu n'as jamais pensé qu'il fallait comme nettoyer ou changer ça ou quoi que ce soit. Et un de mes amis avec qui on réfléchissait sur cette question-là, il me disait c'est comme si on est sur un au gym, là, comment on appelle ça, les
tapis roulants.
Les tapis roulants c'est que si on ne continue pas à avancer consciemment, nous les hommes, par rapport à l'égalité-là, ben, nécessairement on recule, en fait. Et c'est très facile de reculer parce qu'en fait, quand on recule, quand on arrête d'œuvrer pour l'égalité, qu'on recule, En fait, on perd rien, on gagne. En reculant, nous, on gagne.
C'est ça, exact.
On gagne du temps, on gagne, c'est moins d'efforts, c'est moins de... parce que c'est du travail réel, là. C'est du travail, faire la vaisselle, faire à manger, s'occuper de l'appartement et tout, c'est du travail réel, là. Je veux dire, si c'était pas fait par, dans le cadre du couple, ça serait payant. Quand on va dans un restaurant, que les gens nous font à manger, ils font la cuisine, ils sont payés, j'imagine, j'espère pour eux.
Mais on gagne, mais je sais qu'il va falloir arrêter vraiment bientôt parce que le studio est... réservé,
on
mais...
On ne peut plus rien dire, de toute façon, c'est la censure.
On ne peut plus rien dire.
C'est mais des femmes qui viennent prendre le studio.
Probablement.
C'est vrai,
probablement.
Sans doute.
Exact.
Mais est-ce qu'on gagne réellement, dans le sens que le patriarcat, je comprends, sur les tâches domestiques, on gagne le temps et tout, mais est-ce que vraiment les hommes... évidemment, ils profitent du patriarcat, mais tu sais, le fait d'avoir des stéréotypes masculins, le fait d'avoir justement des genres de modèles, des genres de pression, de devoir être... l'homme fort, l'homme qui rapporte l'argent à la maison, tout ça, c'est quand même des choses sur lesquelles les hommes souffrent au final de ce patriarcat-là, hein, en guillemets.
Oui, mais c'est souffrance, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'effort d'être... l'effort, être supérieur, ça peut demander de l'effort, là. Si vous aimez le Moyen-Âge, on s'entend qu'être chevalier, c'est un effort. Ouais. C'est quand même plus cool d'être chevalier que d'être paysan.
Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais.
Donc, le chevalier, c'est pas que tout est facile pour lui. Là. Il peut même se faire mal, puis il peut même être tué. Là.
Ouais.
Mais c'est le chevalier.
C'est toujours
c'est cool d'être chevalier, quand même.
Ben non, parce que quand t'es chevalier, toi, tu peux être à cheval, les autres n'ont pas le droit d'être à cheval. Ouais. Toi, t'as ton banc à l'église en première place, alors que les autres sont en arrière. Toi, tu vas être enterré au cimetière dans une place privilégiée. Si tu es accusé de trahison, toi, tu vas avoir l'honneur d'être décapité plutôt que pendu comme un gueux. La plèbe doit se décoiffer devant toi, doit te saluer, on va te payer de l'impôt, on va travailler pour toi gratuitement. C'est les corvées. Tu vas rendre justice, tu vas pouvoir lever des armées, tu vas pouvoir... mais le chevalier, il y a de l'effort là-dedans. Donc, devenir dominant, c'est il y a une part d'effort. Puis, on le sait très bien, là, lié à la masculinité, il y a des comportements à risque. On sait qu'on meurt plus dans des accidents de voiture, mais on meurt plus dans les accidents de voiture parce qu'on a plus de voitures, on boit plus d'alcool, on a des comportements à risque comme ça, mais ça fait partie de notre mise en scène de nous-mêmes comme chevaliers.
Mm-hmm. Je comprends.
On est les plus forts, mais... De ça découle plein d'avantages.
Ouais.
Là, on a parlé des tâches domestiques, des tâches parentales, ce qu'on pense qui nous est dû, le fait que... Moi, je connais pas vraiment d'hommes qui, par exemple, dans les rues, au travail, ou même chez eux, ont peur d'être agressés. Dans les rues, on peut avoir peur, mais si on a peur, ça va être d'être agressé par d'autres hommes, en fait. Mm-hmm. Ou dans un bar. Les batailles ont lieu entre hommes. Même si on est plus privilégié, puis si on pense à voyager, moi, je connais des femmes qui disent « ben moi, je ne vais pas dans tel ou tel ou tel pays parce que ça va être trop compliqué en tant que femme. » Les hommes, on ne se pose pas ces questions-là. Bref, là, on est plus dans les questions privilégiées. Mm-hmm. Donc, encore aujourd'hui au Québec, être un homme, il y a vraiment beaucoup d'avantages.
Absolument. C'est sûr.
Merci beaucoup.
Ben merci à vous.
C'était super.
Merci à vous. Merci vraiment de l'invitation.